Alors j'avais 19 ans, et évidemment ça a été un voyage initiatique. Moi j'étais jamais parti aussi longtemps de chez moi, de France, ça a duré plusieurs mois. On était deux. On était deux, même si j'ai jamais revu la seconde personne depuis, ça fait des années, chacun sa vie. C'est ça, c'est les grands voyages de jeunesse, et puis après chacun trace sa route. On avait appelé ça la route du feutre, un peu par opposition à la route de la soie. La route de la soie, c'est cette immense piste qui reliait l'Empire chinois au monde occidental à travers l'Eurasie. Et là, la route du feutre, c'était une route qui avait quand même une pertinence. Elle était perpendiculaire à la route de la soie, elle faisait du nord-sud. Et elle reliait la Mongolie au Tibet. Voilà. En fait, on est parti de Oulan-Bator et on voulait aller jusqu'à Lhasa.
Vous écoutez Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Deux fois par mois, je reçois un ou une invitée qui se raconte au travers d'un voyage qui l'a marqué. Dans cet épisode, Cédric raconte son voyage de la Mongolie au Tibet. Avec lui, on a parlé de corruption, de rites de passage et d'alpinisme.
J'ai bourlingué à travers le monde. Alors le feutre, pourquoi le feutre? Parce que c'est le matériau issu de la laine du bétail, le matériau qui constitue les yourtes, les habits des Tibétains, leurs chapeaux, c'est leur textile en fait. Et on trouvait ça amusant d'appeler ça la route du feutre, même si en fait cette route du feutre n'a jamais existé. Elle a existé à travers nous, quoi. On est parti, donc c'était en 2000, je sais même plus la date exacte, c'était en 2001 je crois, ou... Si j'avais 19 ans, c'était en 2001. Et on est parti très tôt, à la fin du printemps, et puis on est revenu tard. L'automne était bien entamé, notamment sur le plateau tibétain. L'hiver commençait à s'installer, et ça a valu d'ailleurs à la personne qui était avec moi quelques gelures. Mais bon, ça c'est la fin du voyage. Alors tout ça, ça a commencé à Oulan-Bator. Bon, l'URSS était tombée depuis une dizaine d'années déjà. Ça nous a pas empêché d'arriver dans un bon vieux Tupolev brinque-ballant. Aujourd'hui, moi je connais bien la Russie, je suis très habitué à cette aéronautique soviétique, mais à l'époque ça avait été déjà le début du voyage. C'est à Moscou évidemment que cet univers post-soviétique avait planté le décor. Et on était arrivé à Oulan-Bator, dans l'ancien aéroport, maintenant tout a changé à Oulan-Bator, et il nous fallait trouver des chevaux. Alors on avait un contact là-bas, je me souviens, un Français qui s'était marié avec une Mongole et qui était artiste de cirque. Et il nous a trouvé des chevaux. Je me souviens que ces chevaux, on les avait achetés, il y en avait trois, on les avait achetés 150 euros pièce, c'est-à-dire rien du tout. Aujourd'hui, les gens qui partent, il y a beaucoup de jeunes qui partent faire des chevauchées, des périples à travers la Mongolie équestre, ils ont bien raison d'ailleurs, c'est magnifique. Et je sais par contre que le cheval a connu une certaine inflation. On avait passé quelques temps à Oulan-Bator, il avait fallu se procurer sur le marché. Un marché où en couleur eh bien tout le matériel équestre, des selles, on avait pris des selles européennes parce qu'on se voyait mal chevaucher sur ces espèces de selles mongoles très relevées à l'avant et à l'arrière. On avait acheté tous les licous, ces ustensiles en cuir qui allaient nous accompagner. Alors, je dois dire qu'on n'avait jamais fait d'équitation. Et ça a été évidemment une forme d'angoisse. J'avais pas trop dormi la veille du départ. Ça, je m'en souviens. On était dans une yourte à Oulan-Bator, en banlieue d'Oulan-Bator, et j'étais un petit peu inquiet de ce qu'on allait arriver à faire. On avait quand même, moi, j'avais 19 ans. On partait pour plusieurs mois avec des chevaux qu'on savait pas monter, dans une direction qu'on connaissait pas très bien. On parlait pas mongol non plus. Bon, c'était l'aventure. C'est ce qu'on avait voulu vivre, donc on était prêts, et en même temps, forcément, la veille, on est un petit peu inquiet. D'ailleurs, le premier jour s'était passé assez mal. Il a fallu longer tout Oulan-Bator, qui est une ville assez étirée, le long de la rivière, comment s'appelle-t-elle cette rivière? J'ai oublié, la Toul, je crois. C'est le bassin du lac Baïkal, tout ça se jette après en Russie, mais on avait longé cette rivière toute la journée en contournant la ville. On avait failli se faire voler les chevaux dès le premier jour par des gamins, des gosses, quoi, et qui nous avaient juste dit ah, « est-ce qu'on peut faire un tour à cheval? Est-ce qu'on peut faire un tour à cheval ?» Je m'étais souvenu qu'on avait été prévenu de cette combine-là. Si on leur laisse faire un tour à cheval, on revoit jamais le cheval. Et puis après, il y avait ces immenses... c'est pas une zone industrielle, mais il y avait une immense usine qui bouchait un peu tout le... C'est à l'ouest de la ville par lequel on partait, et on avait dormi sur une colline, là, on voyait la centrale thermique, c'était pas super romantique le premier soir. Mais bon, avec le temps, on a quitté la ville très rapidement, hein. Dès le deuxième jour, on était dans la steppe. La steppe d'abord plantée de pas mal de yourtes avec pas mal de troupeaux, et puis les jours avançaient, et de moins en moins de cavaliers, moins en moins de bétail, de chevaux, de yaks aussi, il y a beaucoup de yaks en Mongolie. Nous, on a pris nos marques, on a un peu apprivoisé nos bêtes. Il y en a un qu'on n'arrivait pas à monter, on en a fait un cheval de bas. Les autres étaient plus ou moins dociles. Ah, c'est des petits chevaux mongols. Moi, je suis assez grand, et les photos sont absolument ridicules quand je les regarde aujourd'hui, parce que j'ai l'impression de toucher de terre. Mais ils étaient braves et puis costauds, et on sait, toute la journée. En fait, on leur demandait pas d'ailleurs de nous porter en permanence, parce que c'est épuisant d'être à cheval toute la journée, donc on marchait beaucoup, moi je marchais, je tirais cet animal, et puis je crois qu'on est devenus amis, quoi. Le soir, c'était toujours le même rituel, bivouac, on plante la tente, il faut aller apporter les chevaux à la rivière, après on les laisse gambader, manger avec des entraves, parce que sinon ils partent, surtout quand il y a dans le secteur, il y a d'autres troupeaux. Et Dieu sait s'il y en a en Mongolie, ils sont tentés de rejoindre des troupeaux, d'ailleurs. Et une ou deux fois, le matin, en se réveillant, on n'aperçoit pas nos chevaux. Alors évidemment, là, on est un petit peu paniqué, surtout que c'était le début du voyage. On se voyait mal rentrer quand même, un peu comme des bénets à Oulan-Bator. Et puis, c'est des Mongols à côté qui sont venus nous voir, des cavaliers. Et ils nous ont dit que nos chevaux, en fait, s'étaient intégrés dans un troupeau. Bon, c'est très difficile à les tirer de là, parce qu'ils sont dans la masse de juments, des talons, et il n'y a que les Mongols, en fait, qui peuvent y aller. Alors, ils sont à cheval, d'abord, et puis ils ont une espèce de longue perche avec un anneau. Ils attrapent comme ça par le cou, le cheval. Et ce qui est incroyable, c'est que on n'a même pas eu besoin de leur désigner les chevaux qui étaient les nôtres. Ils savaient tout de suite qui était étranger à leur troupeau. Donc, ils nous ont sauvés sur ce coup-là, et dans beaucoup d'autres situations, c'est vrai qu'ils sont dans un secours formidable, très accueillant. On a beaucoup été accueillis dans les yourtes, à tel point qu'on s'en méfiait, en fait. À un moment, on avait envie d'être tranquille, parfois, le soir, et on commençait à se cacher des Mongols, parce que sinon, c'est systématiquement une invitation, et ça peut être interminable. Eux sont heureux de vous voir, vous les premiers jours aussi, et puis après vous avez envie parfois d'être un peu plus dans la nature, tranquille, et ces interminables dégustations de thé. Il faut dire aussi que la nourriture mongole, alors là c'est évidemment le point noir, il y a l'ayrak, là, le lait fermenté, qui passait pas mal au début, puis qui a suscité une forme de dégoût au bout de quelques jours. Il y avait ce fromage, là, très dur, qui vous donne, vous cassez les dents dessus. Sinon, c'est un peu de riz, un peu de pâte, si vous avez de la chance, avec de la viande, beaucoup de viande, pas toujours celle d'un steak tendre. Alors, en revanche, on était fascinés par une chose, c'est toutes les évocations du bouddhisme dans les yourtes. Il y avait toujours un petit coin dédié à la religion. Et nous, on allait vers le Tibet, c'était très lointain, hein, on était à plusieurs milliers de kilomètres. On allait vers le Tibet. Ce qui unit le Tibet à la Mongolie, c'est le bouddhisme en partage. D'ailleurs, Dalai Lama, ça veut dire océan de sagesse, comme tout le monde le sait, mais c'est mongol comme terme. C'est le Han, un des descendants de Genghis Khan, et qui avait lui-même une espèce de quête mystique en lui, et demandé à plusieurs représentants de différentes religions de venir le voir pour lui proposer un chemin spirituel, qui avait finalement adopté le bouddhisme tibétain, et donc octroyer aussi sa protection sur le Tibet par là même. Il avait donné le droit Dalai Lama, au premier Dalai Lama, de s'appeler ainsi. Et c'est ça aussi, hein, qui faisait le sens et l'itinéraire de notre voyage. C'était la route du feutre, certes, mais ça aurait pu être une route du bouddhisme. Et puis il y avait autre chose, d'ailleurs, c'est que c'était une route d'altitude. On le sait pas trop, mais la Mongolie, c'est un pays haut en altitude, c'est un plateau. Alors, il y a des chaînes de montagnes, etc., mais on est toujours au-dessus de 2000 mètres, et on allait vers le plateau tibétain, qui lui, bien sûr, est beaucoup plus vertigineux, mais c'était un peu la même topographie, c'est-à-dire qu'on était en train de traverser ce qu'on appelle la Haute Asie. Et l'autre, finalement, quatrième, cinquième lien entre le Tibet et la Mongolie, c'était aussi le nomadisme, bien sûr. Ça nous passionnait. Un nomadisme qui, en Mongolie, n'est pas n'est pas surfait, n'est pas dégénéré, n'est pas cantonné à des réserves ou du ressort du folklore comme hélas partout maintenant dans le monde. Il y avait une vraie authenticité à l'époque, elle existe encore en Mongolie, même si les jeunes de plus en plus rejoignent la ville. Voilà, et c'était devenu du coup notre quotidien. D'ailleurs, nous aussi, on était devenus nomades, sauf qu'on était libérés de toute préoccupation, de tout travail. On n'avait pas besoin d'aller faire paître les troupeaux. On avançait vers le sud, vers le désert de Gobi. Et on a vu comme ça la nature, c'était passionnant. D'ailleurs, ça séchait, quoi. Quand on part d'Oulan-Bator, c'est assez vert. On a rejoint l'ancienne capitale, d'ailleurs, des Khan, dont il reste pas grand chose. Ça a été toujours un peuple nomade, les Mongols, donc il n'y a pas beaucoup de bâtis, il n'y a pas beaucoup de ruines. On s'était engagé dans ces montagnes, ça s'appelle les monts Kangai, je crois, Khangai, je ne sais plus exactement. Puis, en altitude, on a retrouvé un peu de végétation, de froid. Et en redescendant, sur le flanc sud, évidemment, c'était le désert de Gobi tout de suite. Alors ça, le désert de Gobi, c'est pas le Sahara, ça va pas, c'est pas la beauté des dunes, c'est une étendue hyper aride, extrêmement minérale. C'est des pierres, beaucoup, qui s'étendent à l'infini vers la Chine. Donc ça a été des jours un petit peu plus pénibles. Il y a quelque chose de grandiose, malgré tout. C'est beau, mais c'est sec, c'est fini, il n'y a plus de points d'eau. Les rivières qu'on avait suivies en descendant les montagnes, en fait, on les a suivies jusqu'au moment où elles s'assèchent. Et ça, psychologiquement, c'est difficile. On avait de plus en plus de mal à avoir de l'eau, on filtrait l'eau comme on pouvait. Et on demandait un peu aux Mongols, mais il y en avait de moins en moins. Donc ça a été un peu la fin de la belle vie dans les steppes, quoi. Parce que c'est vrai que la Mongolie, c'est la belle vie dans la nature. Il n'y a aucun danger objectif. Il n'y a pas de fauves, il n'y a pas de moustiques, porteurs d'un je ne sais quel virus. En fait, il ne peut rien vous arriver, pratiquement. Vous êtes dans la nature du matin au soir. À chaque fois que vous voyez un homme, en général, il est bienveillant. Donc, c'est au moment d'entrer dans le désert de Gobi qu'on s'est dit que là, il allait falloir être un petit peu plus sérieux, quoi. Alors, dans le désert de Gobi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des espèces de... J'ai oublié le terme mongol, mais des espèces de mini-massifs montagneux. Et donc, on rentre là-dedans, on monte à l'altitude, et là, on retrouve de l'eau, de la végétation et des Mongols. Et ça nous est arrivé une ou deux fois, je sais plus. C'est frappant parce que d'ailleurs souvent il peut même y pleuvoir. Alors, c'est comme une île dans le désert en fait. Vous rentrez dans cette espèce de petite montagne, il y a deux trois vallées comme ça, et là vous retrouvez un univers vivable avec tout ce qu'il faut d'ailleurs pour l'homme et pour les bêtes. Donc on est allé se réfugier là-dedans. Et puis alors on avait appris que les Chinois nous laisseraient pas passer la frontière avec nos chevaux. Je sais plus exactement quelles étaient les raisons, sans doute des carnets vétérinaires, tout un tas d'affaires qu'on était incapables de régler. Donc à ce moment-là, on a décidé de nous séparer de nos chevaux. Cela dit, on en avait déjà perdu un. On se l'était fait voler pendant la fête du Nadam, qui est cette grande fête au mois de juillet, si je me souviens bien, pendant laquelle les Mongols s'adonnent à toutes sortes d'épreuves, notamment des courses de chevaux. C'est assez bluffant, d'ailleurs. Ils s'habillent aussi de manière traditionnelle, même si au quotidien, ils le sont, en tout cas dans les steppes. Et le dernier cheval qui nous restait, on l'a pas vendu, parce que je sais même pas s'il valait grand-chose. Le pauvre, il était épuisé. Et on l'a donné au dernier Mongol qu'on a croisé. Et il nous a promis qu'il serait toujours à nous. On avait bien pas tellement l'intention de revenir, mais enfin c'était sympathique. Donc on est passé en Chine et là on s'est acheté des vélos d'une qualité absolument effroyable. Et tous les soirs, je me souviens que j'avais ma clé à molette pour revisser à peu près tous les boulons. Il faut dire qu'on leur faisait subir à ces pauvres vélos des itinéraires assez compliqués, puisque là on avait traversé le Gansu, on arrivait au Qinghai qui est le début du Tibet, et donc on passait la chaîne des Kunlun. Donc c'était les premiers cols à, je sais pas, 4500 mètres, 5000 peut-être. Nous, ce qu'on voulait, c'était rejoindre au plus vite le Tibet, parce qu'on avait été un petit peu quand même perturbé par ce passage en Chine, des villes après la Mongolie, quand on arrive dans les grandes villes de Mongolie intérieure comme Khokhot ou je sais plus, on était à Lanzhou. C'est des villes multimillionnaires avec une densité incroyable, et on n'avait rien contre, mais on était tellement perturbés dans notre tranquillité et qu'on en voulait retrouver le Tibet, parce qu'au Tibet, on s'imaginait que ce serait comme en Mongolie, quoi. Et c'est ce qui s'est passé, d'ailleurs. Sauf que c'était un univers d'altitude, beaucoup plus froid, et que les Tibétains étaient très pauves, peut-être. C'est pas que les Mongols soient riches, mais il y avait une forme d'abondance, au moins dans les pâturages, quoi. Ils mangeaient à leur faim. Côté tibétain, on est tombé très vite sur des nomades. On a suivi une caravane de yaks qui allait vers Lhasa pendant quelques jours, mais elle allait tellement lentement qu'on les a lâchés. Le yak n'avance pas. Alors cela dit, en altitude, il garde le même pas. C'est quand même sympathique, mais le rythme, c'est un rythme de croisière, quoi. Assez lent, et on voyait des nomades de loin en loin, pas trop, hein. Enfin des nomades, j'appelle ça les nomades, ils sont dans une espèce d'itinérance selon un... c'est presque une transhumance, quoi, selon un itinéraire assez précis. Ils vont pas comme nous, ils traversent pas les mondes, non, ils font leur tour dans leur région et qu'ils connaissent par cœur, selon les saisons et puis selon l'itinéraire convenu avec les autres pasteurs. Donc souvent, en fait, c'était même du dur. Il y avait parfois des maisons, c'est des briquettes, quoi, avec une espèce de corral dans laquelle le troupeau vient s'abriter s'il le faut. Le danger du Tibet, au coup, c'était évidemment les chiens. Ces espèces de mastifs, là, des chiens loups, en fait, ils défendent les baraques contre tous les intrus, et les intrus, c'était nous. Donc, on avait des pierres pleines les poches. Moi, j'essayais de leur tirer dessus jusqu'à ce qu'un Tibétain apparaisse et les rappelle. Mais bon, les Tibétains, on les a pas croisés tous les jours. On les voyait... nous, on était sur des plateaux, hein, entre 4000, 5000, parfois montés à 5500 mètres. Ça durait 2, 3, 4, 5 jours, on voyait personne. C'était quand même beaucoup moins peuplé. Et le plus dur, c'était les traversées de rivières. Hein, parce que, évidemment... il n'y avait même pas de chemin, je ne parle pas de piste, mais il n'y avait même pas de chemin, pas de pont évidemment, donc il fallait enlever le bas, quoi, et chercher un gué justement pas trop profond. J'essayais de repérer les traces de yak le long des rivières et de voir à quel moment elles s'engageaient dans la rivière, parce que j'imaginais que c'était là que c'était le moins profond, mais l'eau était absolument glaciale et il fallait porter le matériel. C'était on essayait de faire ça avant midi, en fait, pour avoir ensuite toute l'après-midi pour sécher. C'est chiant en marchant, mais c'est chiant quand même, parce que si on faisait ça trop près du bivouac, on se retrouvait trempé dans les tentes, et là, les températures étaient passées sous zéro, ça neigeait d'ailleurs. Il faut dire qu'on est arrivé, tout ça a pris des mois, on raconte ça rapidement, mais tout ça a pris des semaines, des mois, et donc on était au Tibet, on était aux portes de Lhasa, c'était octobre, l'hiver approchait, et sur les plateaux, ça, il fallait commencer vraiment à faire froid, et c'est là qu'il m'est arrivé un truc pas très sympathique, en essayant de repasser une chaîne de montagnes pour basculer sur Lhasa. D'ailleurs, c'était après l'immense lac du Nam Tso, un lac de toute beauté. J'ai perdu mes lunettes de soleil, et donc j'ai eu ce qu'on appelle une ophtalmie des neiges. L'ophtalmie des neiges, d'abord, ça fait très mal aux yeux, on a l'impression qu'on vous enfonce un truc dans l'œil, et puis en plus vous voyez plus rien, enfin à peine, surtout vous avez mal quand vous essayez d'ouvrir les yeux, et donc il faut les fermer. Et puis alors on avait recueilli sous une tente de Tibétains pendant, je sais pas, on est resté 2 ou 3 jours, je crois, je sais plus, jusqu'à ce que moi je m'en remette. Et je me souviens, j'avais un bandeau sous les yeux, hein. J'avais même pas ce qu'on me donnait à manger, j'ouvrais la bouche. Je comprenais rien à ce qu'ils se disaient autour de moi. Et après, on a connu un peu la faim, on n'avait plus rien, on a marché. C'est pas long, on a dû connaître 48 heures la faim, mais quand il faut marcher et qu'il fait froid, on faisait des rêves de repas, de gros repas. Fut-il chinois, on n'était pas forcément fan de ce qu'on nous donnait dans les restaurants chinois, mais. Voilà, qu'est-ce qui nous est arrivé d'autre. Je crois que je raconte pas tout dans l'ordre chronologique. C'est amusant de raconter un voyage 20 ans après. On n'a pas le même rapport à la chronologie. On a été arrêté en Chine, au Tibet. Parce que, bon, on n'a jamais compris administrativement comment on avait le droit ou pas d'aller au Tibet, en fait. Normalement, ça nécessitait un permis spécial, mais nous, on était rentrés par les montagnes. Évidemment, la police chinoise n'est pas dans les montagnes. D'ailleurs, il n'y a pas de Chinois dans les montagnes. Ils sont que dans les villes et le long des routes. Des villes qu'ils ont eux-mêmes créées, parce que ça n'existait pas vraiment lorsque l'armée maoïste est entrée au Tibet. Et des routes qu'ils ont construites eux-mêmes, parce qu'il n'y en avait pas à l'époque du Dalai Lama. Et c'est en voulant, justement, parce qu'on avait faim, en voulant, je me souviens une fois, nous rapprocher d'un bourg, enfin d'une petite ville, pour trouver un magasin. C'est en faisant cela qu'on a été repéré, arrêté immédiatement. Ça a été très pénible. Je me souviens qu'il y avait un interprète pendant l'interrogatoire, c'était l'instituteur du village, il parlait 3 mots d'anglais. Il n'arrêtait pas de dire « Captain Said » et il commençait toutes ses phrases comme ça, « The Captain Said ». Je parlais pas mieux anglais que lui de toute façon, donc la conversation était assez absurde. Et bon, on n'avait pas de permis, il avait raison, sans doute administrativement, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que il était corrompu, il voulait de l'argent, quoi. Et nous, on n'en avait pas. Et il comprenait pas qu'en fait, on était jeunes et qu'on n'avait pas d'argent. Pour lui, on était occidental. On était forcément capable de lui payer un bakchiche. Et en plus, il y avait même pas, je me souviens, d'ATM, distributeur de billets. Donc, on avait des cartes bleues d'étudiants, je sais plus, qui nous permettaient un débit de 100 balles par mois. Je sais. Mais même ça, on pouvait pas le faire. Et donc, lui, il prenait ça comme une insulte suprême, en fait. Et alors, c'est là que j'ai compris cette idée asiatique, là, de perdre la face ou pas. Donc, il nous a confisqué nos passeports. On a été un peu frappés, hein. Ça a été violent à un moment. On nous a laissé une espèce de prison dorée, quoi. On passait la nuit sous surveillance. Et puis, en fait, le gars s'est lassé. Mais il n'est pas venu nous rendre les passeports lui-même pour pas perdre la face. Et c'est sa secrétaire, je sais plus. C'est nous qui étions revenus les chercher. Voilà. Et un beau jour, on est arrivé à Lhasa. Et je me souviens de Lhasa parce que c'était l'automne et il y avait des arbres. Pour la première fois, il y avait des arbres en arrivant à Lhasa et ils étaient aux couleurs de l'automne. Et c'était au mois d'octobre, je crois. Donc c'était un voyage de, je sais plus moi combien, 4 mois, 5 mois, je sais plus exactement. On est arrivé à Lhasa et alors là, bon, on s'est vautré dans le le confort, même si Lhasa n'est pas une ville très confortable, mais par rapport à toutes les nuits qu'on avait connues sur les hauts plateaux, on n'avait pas du tout le matériel de l'époque hein, pour bivouaquer. On était parti avec rien. Moi, j'étais avec des espèces de baskets légères qui étaient complètement trouées. J'avais très froid. On avait gardé nos chevaux, nos tapis de sel pour en guise de tapis de sol, et on avait des duvets de rien du tout. On avait très très froid la nuit à la fin. On n'avait pas prévu en fait qu'on traînerait si tard sur les plateaux. Donc quand on est arrivé à Lhasa, on était heureux, on a beaucoup mangé, on a beaucoup dormi. On était très très maigre, ça je me souviens. On était très très maigre. J'ai jamais été aussi squelettique de ma vie. Et on s'est refait une santé en visitant évidemment le Potala, le Jokang, tous les grands monastères. Et on essayait de confronter notre expérience des plateaux et des Tibétains à cette ville sainte, vidée de son Dalai Lama et de beaucoup d'éléments, remplis de Chinois en revanche, qui apportent là-bas l'idée du progrès. Et c'est difficile en même temps de défendre un Tibet qui vivrait comme lorsque les maoïstes sont entrés en 1950, c'est-à-dire au Moyen-Âge. Alors elle est compliquée, cette question tibétaine. On a bien compris que les Chinois aujourd'hui encore sont dans une politique d'acculturation, d'assimilation absolue. Et en même temps, il ne serait pas normal, je crois, que certains peuples restent au siècle précédent. Donc on était un petit peu troublés, évidemment, par toute cette question tibétaine. Et puis on était jeunes, on n'avait aucune culture pour vraiment la traiter, pour vraiment réfléchir. Moi j'avais 19 ans, hein. 19 ans c'est rien. Donc on a regardé, les yeux grands ouverts, on a fait comme on a pu, on était des ados. Et on est parti, on a décidé de continuer le voyage, on avait du mal à s'arrêter à Lhasa. Mais autrement, c'est-à-dire que là, après, on est parti comme des backpackers, comme on dit. Il n'y en avait pas trop, quand même, à l'époque. On a fait du stop, on est parti vers le Népal. Donc, Shigatse, passé au pied de l'Everest en le voyant de loin. Et puis, on s'est engouffré dans le Népal et on est redescendu sur Katmandou. Et moi, après, je suis allé à l'Everest, au camp de base de l'Everest, au Kalapatar, là, à 5500 mètres côté népalais. Et puis, c'est comme ça qu'on a terminé le voyage. Katmandou, dans le grand quartier de Tamel, avec tous ces touristes et ces routards du monde entier, de l'Occident. Bon, ça a été un voyage quand même assez fabuleux, hein, Oulan-Bator, jusqu'à Katmandou. C'est intéressant parce que aujourd'hui, j'essaie plus de voyager avec ma tête. Je suis curieux du monde, je lis beaucoup. J'essaie d'apprendre, je connais plusieurs langues. Et à l'époque, en fait, quand on a 19 ans, on n'a pas du tout le bagage pour ça. Donc, c'est plus un voyage d'essence, c'était extrêmement physique. Moi, je m'en suis tiré indemne, même les yeux, ça va. Et c'est un voyage initiatique dans le sens où c'est la première fois que je suis allé voir le grand monde pendant plusieurs mois. C'est resté comme mon premier grand voyage, quoi. C'était presque un rite de passage, en fait.
Merci beaucoup pour ton récit. Pourquoi t'as voulu raconter ce voyage en particulier ?
Je pense que le premier voyage qu'on fait dans sa vie, il laisse une trace, en tout cas il donne le là. Ouais. C'est vrai que j'ai 39 ans et j'ai une vie de voyageur un peu derrière moi, si on peut dire. Et ça, ça a été le voyage qui a lancé l'affaire. Ça m'a plu, ça aurait pu me décevoir, j'aurais pu arrêter.
Quand on part comme ça pour des longues expéditions, j'imagine que, bon alors bien entendu, il y a de l'improvisation au jour le jour, mais en même temps rien n'est laissé au hasard. Quelle place tu laisses à l'improvisation quand tu voyages ?
Ah bah là je vais surprendre mon monde, mais moi je suis très mauvais logisticien, organisateur. Je voyage un peu sous l'auspice de Sainte Improvisation. Ça a des défauts, bien sûr. Et en même temps, tout est possible. Si on va aller à gauche, on va à gauche. Si on va aller à droite, on va à droite. J'avoue que c'est pas un choix ou c'est pas pour me prétendre nomade ou je ne sais quoi. c'est mon caractère. J'ai beaucoup de mal à anticiper, énormément de mal à anticiper. Et c'est un problème. Hein. Parfois, certains voyages, notamment moi, je fais parfois un peu d'alpinisme, nécessitent évidemment une organisation stricte.
Qu'est-ce que tu vas toujours prendre avec toi quand tu pars en voyage?
Moi, j'ai une réponse claire, nette et tout à fait authentique. Ne jamais, jamais, jamais oublier les boules caisses. Il faut pas lésiner sur la boule caisse. Le reste, c'est pas important. Vous pouvez acheter du bas de gamme, mais la boule caisse, il faut des boules caisses de compétition. C'est utile partout, dans les transports et même dans les tempêtes. Moi, il m'est arrivé sous la tente, sous de violents orages qui durent des heures. Si vous voulez dormir, faut mettre des boules caisses. Voilà, c'est tout.
Tous ces voyages que tu as fait, comment tu les racontes? Est-ce que tu as un médium préféré pour le faire? Sachant que, je ne l'ai pas encore dit, mais tu es écrivain, tu as sorti plusieurs bouquins.
Ben voilà, mon métier c'est le livre, et c'est pas juste mon métier, en tout cas c'est pas le hasard, c'est mon bon plaisir. Donc je raconte à l'écrit, sur le terrain, ça se concrétise par la tenue systématique d'un carnet. Voilà. Alors je suis pas très ordonné, moi j'ai du mal à le sortir tous les jours, mais je me rattrape quand j'ai une plage horaire assez longue, et surtout quand j'ai des choses à dire, enfin des impressions. Donc je noircis ces petites pages blanches qui sont ensuite la base, le matériau d'un futur ouvrage.
Est-ce que tu peux nous parler justement de ton dernier ouvrage ?
Alors, mon dernier ouvrage, du coup, c'est moins un ouvrage de terrain, là, pour le coup, c'est un ouvrage de rat de bibliothèque. Enfin, pas que, je me suis déplacé aussi un petit peu, donc j'ai raconté dans un livre qui s'appelle « Alpiniste » de Staline, le destin de deux frères qui s'appelaient les frères Abalakov, et qui étaient les légendes de l'alpinisme sous Staline, enfin en URSS de manière plus générale. Donc pour ça, il a fallu enquêter voilà justement sur le terrain et dans les archives, jusqu'aux archives du KGB. Les archives d'État de Russie ont bien voulu me donner accès au dossier du grand frère Abalakov, parce que l'un des intérêts de cette enquête, c'est que malgré leur statut de super-héros, ils faisaient la une des journaux à l'époque, eh bien, ces alpinistes ont été victimes des purges staliniennes, et donc ont aussi connu la prison, le goulag, certains ont été fusillés, et c'est ça qui m'avait donné envie justement de raconter leur destin. Je trouvais qu'il y a un contraste incroyable entre la liberté qu'ils avaient connue en tant qu'alpinistes jusqu'à 7500 mètres, dans les années 30, ils étaient parmi les premiers hommes au-dessus de 7000 mètres, et puis les geôles de Staline qu'ils ont connus et la manière dont ils ont réussi à traverser toute cette époque en passant par la guerre hein, contre les nazis à l'Elbrouz et dans le Caucase. C'est ça mon dernier livre.
Très agréable à lire, je suis en train de le bouquiner.
Merci.
Pour revenir à tes voyages et tes rencontres, comment tu considères la rencontre en voyage? Est-ce que c'est plus des amitiés à usage unique ou des amitiés qui restent? Et est-ce que t'as une rencontre qui t'a particulièrement marqué?
Alors moi, je suis un petit peu je suis un peu ironique sur ces rencontres au voyage. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien faire des clichés, d'un beau sourire, ou parler d'un tel avec lequel vous avez parlé, enfin même pas parlé, fait des gestes pendant une demi-heure et bu un thé. Évidemment, le contact humain est quelque chose de très rassurant et on est toujours très heureux de voir que malgré la barrière linguistique, les cultures, l'exotisme, on peut passer des bons moments, mais il est évident que tout ça est très éphémère, tout ça ne passerait peut-être pas l'épreuve d'une cohabitation un petit peu plus longue. Donc je crois qu'il est essentiel, moi en tout cas j'en parle souvent, d'apprendre des langues, et puis de s'assurer qu'un ami est quelqu'un qu'on a connu longtemps. On peut pas dire voilà qu'une rencontre d'une heure au bord de la route, ça c'est une amitié. Donc par conséquent, les plus belles rencontres que j'ai faites, je les ai faites avec des gens dont j'ai pu parler la langue, c'est-à-dire essentiellement en Eurasie, en ex-URSS, puisque moi je parle russe. Alors voilà, j'ai éventuellement des centaines d'exemples. C'est souvent des gens qu'on reverra pas, évidemment, mais pouvoir communiquer quelques heures. Finalement, en fait, il y a quelque chose dont je me suis rendu compte, c'est que, aussi intéressant qu'une personne soit, elle a pas forcément tant de choses à dire que ça. Et passer 2 jours avec quelqu'un, 3 jours avec quelqu'un, c'est déjà arrivé à en tirer la moelle, quoi.
Une fois que tu es de retour au pays, est-ce que tu es atteint du blues du voyageur? Et si c'est le cas, comment tu te soignes?
Mais ça dépend. Il y a des voyages qui ont été difficiles. Et d'autres, j'étais heureux qu'ils s'achèvent, voire certains, je les ai carrément abrégés. Moi, il m'est arrivé d'avancer des billets d'avion. Et de même que j'ai aussi reporté des dates de retour. Tout dépend du pays, du voyage que vous faites, de l'humeur dans laquelle vous êtes, de l'étape de votre vie. On fait pas les mêmes voyages à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Donc, il y a eu tous les cas de figure. Alors, c'est vrai que parfois le retour a été compliqué, mais je crois qu'en fait, ce qu'il faut surtout pas, mais ça c'est le problème de l'avion évidemment, c'est être parachuté. Il faut une espèce de sas de décompression, quoi. C'est pour ça qu'un retour par voie terrestre, c'est génial. D'abord, c'est plus long, mais aussi parce qu'on voit du coup progressivement le paysage changer. Vous reconnaissez progressivement l'Europe, puis la France, puis votre ville. Et ça, c'est pas mal. L'avion, évidemment, c'est problématique. Moi, j'ai détesté qu'on vienne me chercher dans les aéroports. Je supporte pas d'être accueilli à l'aéroport, même à la gare, en fait. J'ai envie de faire mon retour tranquillement, incognito. Je veux pas que ce soit brutal. Je veux que ce soit moi qui choisisse le moment où j'irai dire bonjour à ceux que j'ai pas vus depuis longtemps.
Pour se parler du futur, maintenant, quels sont tes projets?
Eh bien, c'est amusant parce que là, ce sera pas exactement pareil, mais ce voyage entre la Mongolie et le Tibet, je suis en train d'y revenir pour un livre qui ne racontera pas mon histoire, mais dont l'histoire va s'ancrer dans ces paysages. Et c'est formidable parce que comme ça, je maîtrise déjà un peu le contexte culturel. J'ai bien vu le Tibet, je l'ai même senti, ressenti très fort. Donc ça me permet de mieux travailler là-dessus. En fait, je suis en train de faire un peu le même exercice que j'ai fait avec les frères Balakov en Russie, mais avec l'alpinisme chinois et la conquête de l'Everest, qui est un sujet évidemment extrêmement, extrêmement politique.
Écoute, on arrive à la fin de cet entretien, donc tu as un petit espace qui t'est réservé, dans lequel tu peux partager une dernière anecdote, une recommandation, un proverbe, une citation, c'est à toi.
Moi j'aime beaucoup les proverbes russes, et les Russes, dès que vous dites, pour reprocher à quelqu'un de se faire du mal, même de fumer, en disant « ouais, c'est pas bon pour la santé », ils vous répondent « ça serait dommage de mourir en bonne santé ». Et j'aime bien l'absurde de cette phrase, qui veut dire simplement qu'en fait, il faut vivre, voilà. Pas penser à se conserver comme des momies jusqu'à 100 ans. Si on meurt avant, ben on mourra avant. Il faut vivre, mordre à la vie à pleines dents. Ça veut pas dire qu'il faut prendre des risques exagérés, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il faut pas non plus tomber dans l'inverse. C'est un peu parfois, je trouve, le travers de cette société qui a érigé la précaution. Et là, on vient de vivre une année sous le signe du principe de précaution. En vérité ultime, donc voilà.
Merci beaucoup.
Merci Marco.
Et voilà, c'était Bourlingué, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Merci également à mon invité pour sa chouette histoire. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre application d'écoute préférée. Vous pouvez aussi écouter Bourlingué sur la web radio Voyage, Allô la planète. Vous pouvez également suivre le podcast sur Instagram, bourlingué.podcast. Ah oui, une dernière chose. La musique que vous entendez derrière s'appelle J'ai Bourlingué. Elle a été écrite et interprétée par Serge Raphaël. Merci à lui.